Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Bonsoir à tous, les vraies voix vrombissent à plus de 90 km/h en ce mois d'août. 17h-19h, le 5 à 7 des amoureux devient le 5 à 7 des ambitieux, ceux qui veulent allier la vacance au savoir, l'utile à l'agréable. D'ailleurs, elle n'en démord pas jusqu'au 8 août prochain, ses vacances à venir. Elle conservera sa vigilance, son intransigeance, ses convictions, que ce soit dans ses livres, dans ses articles ou au micro. Isabelle Marchandier, chroniqueuse à Causeur. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Frédéric.
Faut patienter encore un peu pour les vacances. Ouais. Je dis faut passionner, ce sera des vacances passionnées du coup.
Ah oui, passionné en lecture, mais un peu de plage quand même. J'aime bien nager.
Ouais. Il faut s'accorder ça. Lui conserve sa détermination tranquille. Il met au service des sujets de société son expérience de la vraie vie, celle des petites et moyennes entreprises qu'il chérit à la CPME. Il transmet ses réflexions depuis sa présidence du cercle de réflexion, Étienne Marcel. Je vous remets à vous aussi le prix Étienne Marcel, Bernard Cohen-Haddad. Bonsoir.
Merci Frédéric pour cette épitaphe. Je reste en vie en tout cas.
Très bien. Elle va vous choyer, elle, tout le mois d'août. Elle sait vos préoccupations, que vous soyez agriculteur, universitaire, gilet jaune, bonnet rouge, arménien, ouïghour, ukrainien, taïwanais. Elle vous connaît, Ala Oukili, journaliste Sud Radio. Bonsoir.
Mes hommages.
Je parlais de Taïwan, on va en parler hein, d'ailleurs, parce que vous, les auditeurs de Sud Radio, vous le savez, vous êtes conviés à une consultation sur nos deux grands débats. Et le premier débat, 17h30, Taïwan est-elle la nouvelle Ukraine ? Ça bouge beaucoup. Nancy Pelosi, l'émissaire américaine, est arrivée en avion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un comité d'accueil et un comité d'accompagnement. C'est un vrai problème incroyable qui se propose à la planète. Et Taïwan doit être pensé, imaginé et abordé avec toutes les informations nécessaires. C'est ce que nous vous proposons de faire tout à l'heure à 17h30. Nous ferons bien sûr le tour de table avec nos vraies voix. À 18h30, n'oubliez pas aussi notre deuxième thème. Nos forces de l'ordre doivent-elles s'équiper en toutes circonstances de drones ? Le drone, c'est un peu une des stars de cet été. Il a aidé à assassiner, à tuer le leader d'Al-Qaïda en Afghanistan. Il a aidé aussi à sauver un adolescent de 14 ans sur la plage espagnole de Valence. Comme quoi, il faut se poser la question, y compris pour nos forces de sécurité. Vous l'avez compris, c'est un bien beau programme qui nous attend. Les vraies voix, c'est parti.
Les vraies voix Sud Radio.
Alors, je dois commencer par un coup de cœur et un coup de gueule. Et j'ai décidé, autant vous le dire tout de suite, de bénéficier de cette période de vacances pour privilégier le positif. On aura donc un coup de cœur. On est d'accord, on fera du coup de cœur, Bernard Cohen-Haddad, ça vous plaît ?
Oui, j'adore le cœur.
Alors, la question de la survie de notre planète occupe tous les débats. On consomme trop, on pollue, on réchauffe, on souille, on épuise. Alors, le plus ambitieux, certes, de nos concitoyens est capable de trouver des parades, mais en a-t-il trouvé pour éviter ce chiffre qui nous mène inévitablement au développement de nos pratiques ? C'est mathématique. En 2050, nous serons près de 10 milliards d'humains, quand aujourd'hui nous sommes encore 7,7 milliards. La logique voudrait que pour préserver notre écosystème, nous soyons un nombre adapté aux quantités de ressources naturelles existantes pour vivre décemment et le plus longtemps. Et si les naissances étaient régulées en tenant compte des possibilités de notre planète et pas le contraire ? Aussi, je considère l'information rendue ce matin comme un coup de cœur, car encourageante, la Chine s'attend à une baisse de sa population d'ici à 2025. Le pays est certes confronté à une crise démographique avec un vieillissement rapide de la population active. Pourtant, finit la politique, peu démocratique d'ailleurs, de l'enfant unique. Mais les couples sont refroidis par la hausse du coût de la vie, comme chez nous d'ailleurs, comme dans de nombreux pays développés. En revanche, la population de l'Inde, du Nigeria, déjà immense, croît à grande vitesse. Dans les années 80, les missions humanitaires incluaient dans leurs actions, la mise en place de contraception. Est-ce que les idéaux religieux, est-ce que les fractures économiques ont exclu de telles missions d'ordre vital pour la planète ? Voilà, c'est mon coup de cœur. C'est pas si mal que ça quand, finalement, des populations, sans remettre en cause évidemment leur histoire, leur avenir, et ils ont de la marge, nos amis chinois, je pense que c'est bien. Qu'en pensez-vous, chère Isabelle Marchandier ?
Oui, bah alors après, c'est peut-être poussé aussi par des raisons économiques, puisque la Chine est en pleine crise économique avec une baisse des importations et une hausse des exportations. Il y a clairement des tensions au sein des populations, de la population chinoise, entre la population des côtes qui vit beaucoup mieux que et la population des provinces. C'est peut-être juste par pragmatisme. Voilà, chez nous, on peut noter aussi que en fait, c'est un gros problème, la démographie, je suis bien d'accord avec vous.
Ah oui, c'est considérable, en fait. Hein.
Mais ouais. En Occident, en tout cas en France, il y a souvent par exemple, la réflexion qui était amenée chez certains écologistes, c'est de dire on va pas faire d'enfants justement pour sauver la planète. Mais on est face aussi au problème des retraites où il y aura besoin de beaucoup plus d'une démographie beaucoup plus soutenue lutter contre ce problème-là.
Enfin, alors nous évoquons
le vieillissement de la population, oui, qui est un réel problème.
Nous évoquons la Chine. Vous soulignez la situation économique. Finalement, les Chinois arrivent à une situation un peu comparable à la nôtre. Maintenant, ils se posent la question de ces pays. Alors, j'ai donné deux exemples, mais parce que ce sont deux pays terriblement peuplés, hein, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique.
Et sera le plus peuplé du monde en 2050.
Oui, à la Oukili. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il y a des problèmes économiques, mais il y a des développements économiques. Mais quand il n'y en a pas, il n'y a pas cette prise de conscience.
Certes, et il y a également le problème entre le Nord et le Sud, et puis l'avenir du travail, de la croissance, qui se pose également en France. Nous, par exemple, on a beaucoup de tensions au sujet de l'immigration, des postes non pourvus, mais on voit qu'on ne va pas s'en sortir, notamment parce que la pyramide est en train de s'inverser, qu'on a un vrai vieillissement de la population française, et que l'Afrique sera le premier marché de main-d'œuvre d'ici quelques années. Donc, il va falloir effectivement avoir une vraie politique de la natalité, coûte que coûte.
Politique mondiale,
hein. Commençons déjà par chez nous.
Hein. Ouais, d'accord.
Mondialement, idéalement oui, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, regardez juste le déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique. Regardez comment il a été accueilli, comment il a été chahuté. On ne veut plus avoir de leçons d'ailleurs, on ne veut plus avoir de leçons de morale, ni même de attention à votre démographie ou attention à la contraception, même si on dit que c'est pour l'émancipation d'ailleurs des femmes dans les pays du Sud. Ça ne marche plus. Je dis déjà, occupons-nous de nous. Et puis, on essaye de faire attention aux autres.
Oui, on veut bien faire des efforts, mais c'est toute la planète qui doit faire des efforts. C'est une question culturelle, Bernard Cohen-Haddad aussi. Hein.
Oui, c'est une question culturelle, politique et économique. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que la Chine, qui était un des pays les plus peuplés du monde, qui est un pays aussi extrêmement divers, parce que la Chine du Nord, c'est pas pareil que la Chine de l'Est ou du Sud. Il y a aussi des populations extrêmement diverses. C'est un pays de population, est en train de créer sa classe moyenne. Et donc, après un moment où il y avait de grands écarts de richesse, vous savez, les petits Chinois qui étaient à vélo, qui n'a pas été en Chine et vu ces 200 mètres de vélo les uns derrière les autres, si vous allez aujourd'hui...
Souvent des triporteurs, d'ailleurs.
Des triporteurs, et d'ailleurs, on pouvait se poser la question sur la relation à l'humain pour ceux qui vous portent d'autres, c'est quand même aussi qui transportent d'autres à vélo. Mais on est en train de créer cette classe moyenne, ce qui va permettre c'est-à-dire de combler le fossé entre ceux qui étaient les plus pauvres et ceux qui étaient les très très riches de Chine, puisqu'il y avait des très très riches en Chine. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a une évolution. Et je crois que la Covid-19, qui a beaucoup perturbé la Chine, il ne faut pas l'oublier, hein, je vous rappelle que quand même, pendant des mois, on a eu une politique extrêmement sécuritaire, beaucoup plus qu'en France et qu'en Europe, a aussi joué là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un besoin en Chine d'une qualité de vie, et cette qualité de vie passe par une autre façon de concevoir la famille. C'est nouveau, même s'il faut le rappeler, et je crois que c'est peut-être une leçon que nous devons avoir entre nous, les Chinois, comme beaucoup de pays de la Méditerranée, font attention à leurs anciens, ce qui n'est pas toujours le cas en Europe.
C'est un vrai sujet de réflexion. En tout cas, moi, je pense que c'est une information importante à prendre positivement, parce qu'elle nous oblige aussi à nous poser des questions sur l'avenir de la planète. Encore une fois, si en 2050, nous sommes 10 milliards, comment on va faire ? Ça va être difficile. Dans un instant, c'est le tour de table dans les vraies voix de Sud Radio.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Nous sommes là avec vous au mois d'août. Prenez le rendez-vous, les vraies voix, 17-19h. Vous êtes peut-être dans votre voiture. Tiens, d'ailleurs, comme l'ami Philippe David, qui habituellement présente cette émission. Et je sais qu'il nous écoute dans sa voiture. Ah, il est en train de chavirer, là. Ouais. Allez, bien droit, le volant. Dans un instant, vous, les auditeurs de Sud Radio, vous allez sur le compte Twitter Sud Radio ou sur le compte Facebook. Nous vous avons préparé des petites consultations qui sont en fait la question du thème du débat. Le premier, 17h30, Taïwan est-elle la nouvelle Ukraine ? Dans l'actualité, beaucoup de choses aujourd'hui, puisque ça y est, Nancy Pelosi, l'américaine, a atterri à Taïwan. Et évidemment, vous l'avez compris, la tension est à son comble. C'est l'heure de quelque chose alors qui peut être tendu, mais qui est aussi particulièrement convivial, parce qu'on y retrouve nos trois vraies voix. Et l'ami Maxime Sénat, qui est à la réalisation et que je salue, va nous envoyer le fameux jingle du tour de table.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.
Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures.
Mais vous fumez, monsieur.
C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi.
Le tour de table.
De l'actualité.
Philippe Bilger a donc dit cela un jour.
Exactement. Voilà.
Ça veut dire qu'il connaît Rocco Siffredi.
Mais Philippe Bilger connaît tout.
Voilà. Donc vous aussi, vous connaissez Rocco Siffredi.
Absolument.
Alors.
Ah, c'est le, peut-être le futur président de l'Italie.
Ah oui.
Je ne rigole pas.
Avec, il fera lui aussi les soirées. Qu'est-ce qu'il faisait, Berlusconi? Les soirées bimbo, je ne sais plus trop. Bunga Bunga. Voilà, c'est ça.
Ouais,
je remercie Maxime Sénat qui est très au fait de ce genre de choses. Tour de table d'Isabelle Marchandier, l'imam frériste Hassan Iqiyoussen, menacé d'expulsion, star de la prédication en ligne francophone. Une expulsion, oui, c'est comme ça que l'on dit, qui est critiquée alors, bon, par la communauté, on va dire, musulmane, une partie de la communauté musulmane, mais critiquée aussi par la section Hauts-de-France de la Ligue des droits de l'homme, Isabelle Marchandier.
Oui, alors effectivement, cette expulsion fait polémique et a suscité un flot d'indignation, surtout dans les rangs des députés insoumis, enfin NUPES maintenant, comme le député du Nord, David Guiraud, qui avait fait ce week-end, dimanche, un tweet disant, enfin un communiqué de presse disant que c'était le fait du prince. Et ce terme a été un peu utilisé par la Ligue des droits de l'homme, puisqu'ils ont fait un communiqué en employant le terme « retour à la lettre de cachet ». Donc c'est vraiment très précis, hein, parce que c'est une référence historique qui est symbole de l'arbitraire de la monarchie, ils utilisent ce terme-là pour souligner que c'était un caprice, alors que c'est vraiment le fait de la loi. Enfin, Gérald Darmanin, en voulant expulser cet imam qui prêche la haine, qui prêche de l'antisémitisme et qui est extrêmement violent vis-à-vis des femmes, qui a un regard rétrograde, mais pire, misogyne et sexiste, qui fait appel à la charia, mettre la charia au-dessus des lois de la République. Gérald Darmanin ne fait qu'appliquer la volonté générale, c'est-à-dire qui s'est illustrée dans la nouvelle loi séparatiste qui a été promulguée en août dernier. Donc je m'inquiète du député David Guiraud qui confond le caprice d'un seul homme. Enfin, je veux dire, l'imam, c'est pas Fouquet qui fait la fête à Vaux-le-Vicomte sous Louis XIV. C'est un imam qui prêche la haine. Donc il a confondu la volonté générale de la volonté particulière. Et moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que cette
Ligue
des droits de l'homme donc, fait ce communiqué en disant « retour à la lettre de cachet » et s'indignant de cette expulsion. Et pour moi, c'est une dérive totalement de cette Ligue des droits de l'homme qui a été créée sous l'affaire Dreyfus, donc qui était dreyfusarde. Et là, on force est de constater qu'elle soutient quand même un imam qui prêche l'islam radical et qui a eu des prêches antisémites. Donc on passe d'une ligue de droits de l'homme dreyfusarde à une ligue des droits de l'homme qui soutient une idéologie antisémite, une ligue des droits de l'homme qui est républicaine et laïque et qui soutient la charia. C'est quand même une dérive très inquiétante et il ne faut pas oublier que la ligue des droits de l'homme a été contre la loi qui interdisait la burqa en 2010, qui a tout fait pour imposer le burkini. Enfin, elle a pris des positions extrêmement à l'encontre totalement de nos principes républicains. Donc c'est une dérive totale.
Donc un tour de table effectivement très fort, hein, Isabelle Marchandier, là on commence par un sujet qui vous fait réagir, vous, j'imagine, les auditeurs de Sud Radio, vous aussi, Bernard Cohen-Haddad, impression déjà, oui, sur cet aspect Ligue des droits de l'homme.
Moi, est-ce qu'on peut être politisé, finalement ? Sur ce type d'émotion sélective, ouais. C'est plutôt la lettre de cachet d'aspirine que j'ai envie de prendre, hein, parce que ça me donne mal à la tête. Je crois qu'il y a un certain nombre de valeurs républicaines, il y a un certain nombre de principes de progrès, il y a le respect aussi de la femme, de l'attitude dans la vie publique. On ne peut pas accepter n'importe quoi, on ne peut pas accepter non plus que des groupuscules qui combattent la République puissent le faire en toute impunité sur notre sol. Ça, pour moi, c'est le casus belli, et donc je n'ai aucun état d'âme à trouver qu'on aurait même dû le faire auparavant.
Bon, alors en général, hein, c'est vrai qu'on essaye de peser le pour et le contre, hein, dans un débat. Alors, n'oublions pas quand même que, à sa manière, Isabelle Marchandier a aussi fait part de l'avis donc de ceux qui ont pris position pour cet imam. Donc, finalement, on entend cela, mais d'une manière générale, et je vous vois venir à la Oukili. Là aussi, quelque part, ça vous dérange cette réaction de la Ligue des droits de l'homme?
Alors, ce qui me dérange dans le communiqué de la Ligue des droits de l'homme, c'est surtout cette confusion qui reviendrait à qualifier de liberté d'expression des propos misogynes, antisémites et complotistes. Ouais. Ce n'est pas ça la liberté d'expression, en tout cas. Pas en France, aux États-Unis, ça peut se discuter. Ici, non.
Les droits de l'homme et du citoyen, faire tout ce qu'on veut, grosso modo, sans que ça nuise à autrui. C'est ça l'idée.
Oui, et là, quand on a un imam qui qualifie de pseudo-attentat le 11 septembre 2001, les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, Mohamed Merah, et j'en passe, le même imam qui dit la femme à la cuisine, l'homme c'est le patriarche.
On ne peut pas travailler avec une jeune femme.
On ne peut pas travailler, on ne peut pas réviser, il ne faut pas l'accompagner. Et il faut, la seule fois où on peut dire que l'on est seul avec elle, c'est quand il y a son père ou son frère, donc on la met sous tutelle. C'est ça la liberté d'expression pour la Ligue des droits de l'homme? C'est un vrai problème. Et il y a une autre chose qui me dérange, et Isabelle Marchandier en a parlé, c'est le communiqué de presse aussi du député LFI du Nord, David Guiraud, donc, qui explique que cela concernerait les musulmans. De quel droit, en fait? On parle d'un prêcheur, un prédicateur, un prêcheur de haine. Pourquoi toujours rattacher la LI, en fait, aux musulmans ou aux maghrébins ou parfois même aux blancs? Aujourd'hui, on est blanc, on est d'extrême droite de fait de notre couleur de peau. Pourquoi toujours cette communautarisation de tout, surtout quand les gens ne demandent rien? Ceux qui dénoncent cette expulsion peuvent avoir une seule excuse, l'ignorance des faits. Et ça arrive. Voilà. Et également le fait qu'il n'y ait pas eu de décision de justice. On peut le comprendre. Moi, j'aurais préféré que l'on ne communique pas.
Oui, puisque c'est pour l'instant une décision du ministre de l'Intérieur.
Mais écoutez Frédéric, moi, je suis étrangère. Ouais. Je vais à la préfecture, je demande un titre de séjour. C'est ce qui se passe pour moi.
D'accord.
Et si la préfecture décide
marocaine,
absolument.
Hein,
ouais. Si la préfecture décide de ne pas me renouveler mon titre de séjour, je n'ai aucun droit de lui demander pourquoi. Je peux le contester auprès des instances juridiques qui existent, mais je n'ai pas demandé pourquoi. Donc là, on demande, et l'État qui se met au niveau de ceux qu'il persécute aujourd'hui au titre de cette décision, me dérange aussi de par sa communication qui commence à ressembler de plus en plus à un compte d'influenceuse de TikTok. Que à un État avec l'autorité et la fermeté qui lui incombe. Voilà.
Ouais, je remarque que chaque jour TikTok est cité. Il va falloir.
Mais maintenant, je ne bégaye plus en disant TikTok.
Bon, voilà. Alors, vous évoquiez ces deux raisons pourquoi quelqu'un comme David Guiraud évoque cela. Est-ce qu'il n'y a
parce
pas
que
non
c'est
plus
son fonds de commerce.
Oui. Ouais, bah, alors,
c'est comme Manuel Bompard qui a été sur la même ligne ce matin sur RMC.
Alors, tous ces gens, donc Emmanuel Bompard, en l'occurrence, vous faites référence à LFI. Il y a aussi des gens qui ont grandi. Alors, je pense que c'était un discours qui était très très fort dans les années 80, qui ont grandi avec le souci d'égalité, de respect de l'autrui. Il y a eu de très belles chansons, de très belles œuvres qui ont été... Et finalement, c'est comme si on était gêné aujourd'hui de se trouver face à cette obligation de répondre à la rigidité face à la dureté.
Excusez-moi Frédéric, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai été bercé de cette génération des Lumières, du progrès, de la liberté d'expression, mais pas la liberté d'expression quand elle combat les valeurs de la République. Attendez, quand elle remet
en cause... Et comment
se fait-il
qu'un David Guiraud que je connais, qui est quelqu'un d'adorable...
Alors là, je vous renvoie au 1er juin à l'article d'Alain Finkielkraut dans le Figaro et à l'article de Michel Onfray le dimanche dernier dans le journal du dimanche. Oui. Ça fait partie d'un clientélisme, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, tout simplement d'un problème de valeur. L'ennemi, on peut le dire, c'est Israël, mais pas les terroristes. Donc tout ça, c'est une réalité. On voit bien qu'il y a une façon d'utiliser des groupuscules extrémistes pour combattre les valeurs de tolérance, de progrès et aussi de respect d'autrui dans la République, notamment la place des femmes, l'émancipation des jeunes filles, on le voit dans les quartiers, ce qui n'est totalement inacceptable. Moi, je peux vous assurer qu'il y a un certain nombre d'années, je me suis battu aux côtés de Gisèle Halimi à l'époque pour faire en sorte qu'il y ait ce droit à l'avortement, qu'il y ait cette liberté d'expression, que les femmes puissent être indépendantes et que les jeunes filles puissent aller à l'école à côté des garçons. On est où là ? Je veux dire, c'est vraiment un problème de valeurs et je crois qu'il faut être intransigeant pour celles et ceux qui partagent nos valeurs de progrès, celles des Lumières.
Pour conclure votre excellent tour de table, on l'a bien compris, ça a soulevé un débat fort,
Isabelle Marchandier. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais ce qui interpelle encore, c'est que cet imam a été quand même signalé depuis 2004. Et on ne sait pas des années plus tard, il est toujours sur notre sol. Comment 90 mosquées sont repérées comme séparatistes, pourquoi il n'y en a que 22 qui sont fermées? Après, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui pose problème aussi. Gérald Darmanin, effectivement, est un très bon communicant et il est dans son droit aussi et il est très...
En même temps, on lui demande de faire quelque chose. Il a été élu pour faire quelque chose, il le fait. On ne va pas commencer à remettre ça en question.
Heureusement qu'il y a une loi qui a été votée, promulguée l'année dernière, la loi sur le séparatisme. Elle a une certaine efficacité, la preuve. Après, il faut aller jusqu'au bout de la procédure. Il faut l'expulser. Il n'a rien à faire. Apparemment, il ira en Belgique. Et c'est normal, puisque le CCIF qui a été dissous est en Belgique.
Il est recherché, il sera expulsé. Avant qu'il n'arrive en Belgique, il faut d'abord qu'il puisse descendre de l'avion. Il va bien au Maroc.
Et petit clin d'œil, j'ai passé une partie de mes vacances en juillet à Toulouse, chez des vieux communistes. Ils avaient un discours très dur à l'encontre de la France insoumise. Je me dis, mais pourquoi ils sont proches de vos idées? Ben non, justement, parce qu'il y a ça. Ils sont peut-être en train, du coup, de perdre leur base. Le peuple, c'est ce que ces communistes amis et familles, ce sont des gens du peuple. Allez, à tout de suite, dans un instant 17h30, on vote pour le premier débat. Taïwan est-elle la nouvelle Ukraine ? C'est Sud Radio, Les Vraies Voix.
Les Vraies Voix, Frédéric Brindel.
Nous y sommes, quasiment 17h30, c'est l'heure du premier débat dans Les Vraies Voix. Un premier débat qui nous emmène sur l'actualité internationale qui est vraiment très très chaude là en ce moment. Alors, récapitulons. La question que nous vous posons, c'est Taïwan est-elle la nouvelle Ukraine ? Dans un instant, je vous donnerai les premiers chiffres de la consultation à laquelle vous répondez sur le compte Twitter de Sud Radio. Les États-Unis ont déclaré ce matin que Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, se rendrait bien à Taïwan. Malgré les réactions de Pékin, de la Chine. Ce matin, Pékin a déclaré à son tour « Les États-Unis paieront le prix en cas de visite de Nancy Pelosi à Taïwan ». Aux dernières nouvelles, Alaoukili a suivi ça, elle est bien arrivée. Elle a atterri à Taïwan. Taïwan, c'est la Chine nationaliste, une île au large de la Chine. Pékin considère que cette Chine est... La Chine estime que l'île est l'une de ses provinces historiques qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste du pays, opposée à toute initiative qui donnerait aux autorités taïwanaises une légitimité internationale. Elle est vent debout contre tout contact officiel entre Taïwan et d'autres États. Alors, certes, les Américains protègent habituellement cette île de 23-24 millions d'habitants. Pourtant, Taïwan est souvent visitée par des diplomates américains. Mais là, la Chine dit stop, provocation. C'est un conflit qui se dessine Peut-être, en tout cas la Russie attise le feu, bien sûr, et accuse les États-Unis de déstabiliser le monde. Voilà pour ce qu'il fallait dire de l'actualité au moment donc où la présidente de la Chambre des représentants a donc atterri et la Chine s'insurge contre la présence de Nancy Pelosi à Taïwan. C'est le dernier communiqué par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères via un média d'État. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l'évolution de cette visite, mais il y a eu un sacré comité d'accueil avec notamment des avions, des porte-avions, que ce soit américains et chinois qui se sont croisés. Nous accueillons Jean-Vincent Brissé, général de brigade aérienne, ancien chef du bureau Asie-Pacifique au secrétariat général de la Défense nationale et chercheur associé à l'IRIS. Bonsoir Jean-Vincent Brissé.
Bonsoir.
On a voulu présenter très précisément ce qu'il se passe parce que nous sommes en pleine actualité et la situation évolue. Est-ce que de ce que vous avez pu constater en ce début d'après-midi du 2 août 2022, la situation semble affolante ?
Affolante, non. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les Taïwanais étaient les maîtres du jeu sur cette visite, quand même. Nancy Pelosi est quelqu'un qui est connu pour son anti-pékinisme assez affirmé, mais c'était aux Taïwanais de dire qu'ils voulaient bien la recevoir ou pas. Et non seulement ils l'ont reçu, mais ils la reçoivent en grande pompe, avec en particulier des illuminations sur la fameuse Tour 101, qui a longtemps été l'immeuble le plus haut du monde, où il y a marqué « Bienvenue à Madame Pelosi », où il y a marqué les liens entre les États-Unis et Taïwan. Donc il y a très clairement une joie taïwanaise, malgré quelques contre-manifestations en ville.
Il faut préciser d'ailleurs que les Taïwanais n'hésitent pas à communiquer sur le fait qu'ils se préparent à une éventuelle attaque, prenant en comparaison l'exemple ukrainien. Et alors finalement, c'est la conjonction de cette venue de Nancy Pelosi et de l'actuelle guerre en Ukraine et la tentative d'invasion russe qui fait que ce qui est en train de se passer de la part des Chinois, leurs déclarations notamment, laissent craindre le pire. Mais les Taïwanais vivent depuis très longtemps avec cette idée.
Alors oui, ça depuis 1949, Taïwan est sous la menace permanente de Pékin. Il y a eu jusqu'au milieu des années 50 des affrontements militaires relativement importants. Depuis, c'est plutôt une guerre de communiqués, même s'il y a eu encore quelques tirs pendant quelques années. Mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même pratiquement un million de Taïwanais qui, encore pas longtemps, vivaient sur le continent. Et moi, j'ai vécu à Taïwan il y a une trentaine d'années. Il n'était pas question de téléphoner sur le continent. Il n'était pas question de s'y rendre. Alors que depuis plus de 10 ans maintenant, il y a un tiers des vols qui décollent de la capitale de Taïwan, Taipei, vers le continent. Donc les choses ont beaucoup changé. Mais l'affirmation de l'indépendance de fait de Taïwan est rentrée dans la population taïwanaise, qui parlait avant de chinois du continent et de chinois de Taïwan, et qui maintenant parle de chinois tout court pour les chinois du continent et de taïwanais pour les gens de Taïwan.
Jean-Vincent Brissé, vous restez bien avec nous, vous êtes notre grand témoin, les vraies voix vont réagir. Alors un commentaire et peut-être une question. Bernard Cohen-Haddad, vous êtes inquiet, vous, de ce que vous suivez, constatez ?
Je suis inquiet parce que de tout temps, ça a été bien rappelé par le général, depuis la création de l'indépendance de Taïwan, Formose, la Chine n'a jamais cessé de rappeler que c'était un territoire chinois et le général l'a dit, le continent est l'île et de tout temps, l'île a été protégée par les Européens, par surtout les Américains, pour lesquels c'est une base militaire, il faut aussi le reconnaître, une balle d'intelligence stratégique et donc c'est extrêmement important. Ce qui est gênant aujourd'hui, et là j'aimerais peut-être avoir l'avis du général, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu bien entendu depuis des années, y compris pendant la guerre froide, des crispations extrêmement fortes entre la Chine, les États-Unis, l'URSS aussi à l'époque, qui était un acteur proche de la Chine, et Taïwan Formose. Aujourd'hui, on a l'impression que le fait qu'il y ait eu une guerre en Ukraine a débridé un certain nombre de volontés qui étaient expansionnistes. Hein. On pensait qu'il pourrait y avoir une guerre nucléaire. On voit bien qu'on revient sur un terrain conventionnel et peut-être que demain, si ce n'est par un mouvement militaire, voire des accords économiques, voire tout simplement des négociations internationales, on a l'impression que la Chine a envie de récupérer plus vite que c'était prévu, comme elle a récupéré Hong Kong, il ne faut pas l'oublier. oublier à un moment donné. Taïwan,
mais ça c'est écrit, c'est-à-dire que Hong Kong dans un premier temps appartenait à la Grande-Bretagne et il était prévu qu'elle passe dans le giron. Donc là finalement c'était pas aussi...
Non mais la Chine depuis un certain nombre de mois montre son intérêt pour Taïwan et le fait que la présidente démocrate de la Chambre des représentants y soit allée, c'est aussi un signe fort de la part des USA que pour l'instant ça reste sur surveillance et qu'il y a peut-être des éléments de renseignement qu'on n'a pas concernant un mouvement fort militaire de la Chine qui a mobilisé des troupes il y a un certain nombre de mois sur cette partie du continent.
Je vous donne la parole et je vous laisse répondre Jean-Vincent Brisset, juste pour vous dire que nos auditeurs pour l'instant disent oui, Taïwan est une nouvelle Ukraine à 70%. Jean-Vincent Brisset.
Alors, ce qui est intéressant, on parle toujours de cette comparaison entre l'Ukraine et Taïwan, mais il faut bien voir que dans ce cas-là, la Chine est un pays qui estime qu'il est légitime propriétaire ou ami de Taïwan et qu'elle veut récupérer de la même manière que les Russes veulent récupérer les provinces séparatistes du Donbass. Donc l'agresseur à un moment, c'est la Chine et les États-Unis défendent, alors que c'est l'Ukraine qui aurait été dans la position de la Chine en voulant récupérer ces républiques du Donbass. Donc on est dans des positions symétriques mais opposées entre la Chine et la Russie, l'Ukraine et Taïwan. Bon, ça c'est déjà une première chose assez intéressante. Deuxième chose, les États-Unis se sont engagés à défendre Taïwan. C'est un texte qui a valeur de loi, mais qui n'est pas une loi aux États-Unis et qui les oblige pas de manière pratique. Taïwan n'est pas un pays allié des États-Unis au sens propre, dans la mesure où, contrairement à ce que je viens d'entendre, il n'y a pas de présence militaire visible à Taïwan, et il y a extrêmement peu de présence, même invisible, présence américaine. Et les Européens, en dehors des Hollandais dans les années 80, et les Français un peu plus tard, ont très très peu aidé Taïwan.
Alors Jean-Vincent Brisset, juste pour dire que votre homologue, le général américain, chef d'état-major américain, Mark Milley, a déclaré à la presse que si Nancy Pelosi demandait un soutien militaire, alors il ferait le nécessaire pour assurer une conduite en toute sécurité de ses affaires. C'est depuis le début de la prise de décision de cette visite, l'occasion pour chacun de montrer ses muscles. On a une réaction peut-être au 0800, au 0826, au 300-300. Voilà, je vais y arriver. C'est le téléphone pour les auditeurs de Sud Radio. Serge de Marseille, bonjour Serge.
Oui, bonjour.
Bon, inquiet ou pas, vous ?
Inquiet, pas encore inquiet, mais peut-être que ça va pas tarder, parce que
c'est joliment dit.
parce que ce qui se passe, c'est que même si l'Ukraine, c'est quelque part, c'est la Russie face à l'Europe avec les Américaines derrière, d'accord. Mais l'Ukraine a ce côté que il y a un tas de tuyaux qui passent avec du gaz, du pétrole, et c'est vraiment stratégique au niveau énergétique.
Alors des tuyaux avec du gaz, hein, pas le pétrole, hein, c'est autre chose. Il y a des tuyaux avec le gaz, oui.
Voilà, il y a des tuyaux avec du gaz qui passent, et alors qu'il n'y a pas ça du côté de Taïwan, et du côté de Taïwan, les Américains, ils ont la Chine, hein, c'est pas la Russie. Oui. Donc, ils sont franchement loin de leur base aussi.
Donc,
ouais. Pour les Américains, je vous le dis. Hein.
Finalement, alors, Serge, vous... Oui, attendez, juste pour éclairer comme ça vous permet de retrouver bien votre propos, mais déjà, point très intéressant que vous soulevez, c'est-à-dire le parallèle entre l'Ukraine et Taïwan. Bon, on n'est pas quand même sur les mêmes enjeux, les mêmes positionnements et la même histoire. Vous vouliez rajouter, Serge, avant justement, sur votre propos, de solliciter le général de brigade aérienne, Jean-Vincent Brisset. Allez-y, Serge.
C'est-à-dire que les Américains, ils sont en année préélectorale, il me semble, et donc on sait très bien qu'à ce moment-là, pas que tout se fige, mais enfin, c'est un peu un stand-by en attendant la nouvelle administration. Hein, et moi, je pense qu'il n'est pas interdit de penser que Trump revienne. Donc,
Bon, alors ça c'est très important. Merci beaucoup Serge et coucou à Marseille, hein, bien sûr, j'espère qu'il ne fait pas trop chaud, mais ce que dit Serge c'est important parce qu'on arrive à un moment où Joe Biden là, a pris la parole et on en parlera tout à l'heure pour dire que ces drones ont tué le chef d'Al-Qaïda. Là, il montre effectivement les gros bras en envoyant une personnalité de son administration. Ça dit quoi ça finalement, Jean-Vincent Brisset ?
Alors d'abord, il est intéressant de voir qu'on a découvert la dépendance au gaz russe pour les pays européens et on a l'impression, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'on n'a pas de problème avec Taïwan. Il faudrait quand même savoir que plus de la moitié des microprocesseurs un peu évolués sont fabriqués à Taïwan et que les Taïwanais ont clairement expliqué que s'il y avait une invasion chinoise, la première chose qui disparaîtrait, c'est la capacité de fabriquer des microprocesseurs. Ça veut dire que tout ce qui est basé sur les microprocesseurs, c'est-à-dire à peu près l'essentiel de tout ce qu'on a en Europe et aux États-Unis, s'arrêtera.
Oui. Et au moment où vous avez dit ça, mon général, on a tous regardé derrière l'étiquette de notre maillot si on n'avait pas marqué non plus Made in Taiwan, hein, quand même. Oui.
Voilà, alors il y a longtemps que les Taïwanais ont délocalisé les productions de t-shirts et autres choses. Ils font plus du très haut niveau, hein, les Taïwanais.
Bon, alors question d'Ala Oukili.
Bonsoir, général. Je voulais vous poser une question par rapport à ce que pourrait faire l'Europe dans le cadre de cet affrontement entre la Chine et les États-Unis, parce qu'il me semble que l'Europe n'a pas vraiment de moyens militaires dans l'Indo-Pacifique. Donc, est-ce qu'on irait encore une fois vers des sanctions économiques? J'ai cru comprendre que Bruxelles envisageait tous les scénarios en discutant déjà avec l'administration Biden, mais également avec l'Australie, le Japon, pour prévenir une escalade entre les États-Unis et Taïwan, ou plutôt et la Chine. Quelle est la réponse, selon vous, possible de la part de l'Union européenne ?
Alors, politique fiction ou pas tant que ça, finalement ?
Alors, sur le plan militaire, les États-Unis ont quelques possibilités par rapport à la Chine vis-à-vis de Taïwan. Il est évident que les Européens n'ont pas plus de possibilités que vis-à-vis de l'Ukraine, où en fait, l'Europe a donné des matériels militaires, a autorisé quelques volontaires à aller en Ukraine, mais ça s'arrête un petit peu là. Vis-à-vis de Taïwan, Taïwan essaiera de se défendre. S'il y a une attaque, Taïwan essaiera de se défendre. Mais la Chine est sans doute plus vulnérable à des sanctions que ne l'est la Russie. La Russie, c'est un pays immense avec une population faible et une résilience énorme. La Chine est excessivement dépendante de ses exportations, du monde extérieur. Elle n'a pas d'énergie propre. Alors, elle a maintenant l'énergie russe qui lui arrive à moins cher que ce qu'elle avait avant. Elle a quand même de gros besoins et de besoins d'importation et une économie faible. Quelque chose aussi dont on ne parle pas beaucoup et qui, à mon avis, est extrêmement important et sans doute très grave, c'est que le président Xi Jinping n'a pas, contrairement à ce qu'on dit, un pouvoir absolu et sans nuage. Il a une opposition, des oppositions qui se manifestent à l'intérieur du parti, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas à l'extérieur, comme ça ne se voyait pas à l'époque de Mao. Mais s'il se retrouve en difficulté, ce qui peut arriver n'importe quand, il peut être tenté de lancer une guerre pour ressouder sa population derrière lui.
Une guerre. Attendez. Non, c'est au tour d'Isabelle Marchandier.
Très bien.
Oui, mon général, oui.
À la compétence relativement faible quand même des militaires chinois qui risquent de provoquer simplement une collision ou des choses comme ça avec un bâtiment américain. S'il y a quelques dizaines de marins américains ou d'aviateurs américains qui sont tués dans une collision, la réaction des États-Unis risque d'être disproportionnée, encore une fois, avec des gens comme Nancy Pelosi qui sont très va-t-en-guerre.
Bon, alors, réaction autour de la table. Isabelle Marchandier, on ne vous a pas encore écouté sur le sujet.
Oui, ben non, mais le général a dit ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y avait je voulais revenir sur les tensions internes en Chine, où finalement la crise économique, les fermetures d'usines, de ports et le commerce qui se porte moins bien. La Chine pourrait très bien, surtout qu'il y a le 20e congrès en novembre du PC. Et voilà. Et donc il va être nommé président à vie, donc ça va calmer les tensions internes aussi au sein du parti, et il pourrait jouer la carte nationaliste pour ressouder le peuple derrière lui et donc aller au conflit avec Taïwan.
Bon, et ça, c'est une tendance un peu particulière, parce que de ce que dit le général, on avait l'impression finalement que les Chinois seraient peut-être un petit peu plus robustes et plus indépendants que les Russes, mais visiblement non, les Chinois sont plus dépendants, Isabelle Marchandier.
Ouais. Oui, après, alors, moi, c'est plus, je veux revenir aussi sur Taïwan. Taïwan n'est pas l'Ukraine, il faut bien faire la distinction entre les Ukrainiens qui sont quand même divisés entre, enfin, ils ont toujours été divisés entre les pro-russes, toute la région du Donbass qui était russophone, qui sont toujours russophones et qui voulaient absolument l'indépendance, et Taïwan qui est complètement uni, et c'est un peuple le régime est démocratiquement, un régime démocratique. Le régime ukrainien est quand même, il y a une corruption latente, il y a l'opposition qui est muselée.
Il y avait eu quand même des élections aussi. Hein,
oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est quand même deux, ça n'a rien à voir.
Deux situations différentes. Bernard Cohen-Haddad aussi avait une réflexion.
J'avais une réflexion, plutôt une interrogation. On a beaucoup parlé qu'il fallait ménager la Chine dans la guerre russo-ukrainienne. Vous le savez, un certain nombre d'analystes ont dit que les Chinois était le cavalier qu'il fallait actionner pour pouvoir, ou l'effet de levier pour pouvoir faire plier Poutine, en tout cas, si ce n'est Poutine, avoir un dialogue constructif et serein. Et je voulais voir avec le général qu'est-ce qu'il pouvait penser de cet accord Chine-URSS, justement sur une capacité de mobiliser des troupes dans un conflit limité pour mettre la main sur Taïwan. Qu'en pensez-vous, alors que les faucons américains sont peut-être plus volontaires dans les paroles et moins en budgétaire, compte tenu des dépenses et de la capacité de Biden à mobiliser des troupes?
Une conclusion, donc on fait assez court. Vous rajoutiez juste à la Wikileaks.
Je disais, sachant que la Russie et la Chine ont déjà fait des entraînements militaires ensemble dernièrement.
Voilà, donc sur ce constat de nos vraies voix, la conclusion de notre expert, le général Jean-Vincent Brisset.
Alors, d'abord, une première chose, une alliance militaire entre la Chine et la Russie, c'est pour le moment pas possible. Il y a eu des exercices, quand on dépiote un petit peu ce qui s'est passé au cours de ces exercices, c'est beaucoup de communication, mais pas d'entraînement commun militaire, ça ressemble en rien à une alliance. Donc là, il y a vraiment rien à imaginer. Mais par contre, il y a à l'heure actuelle quelque chose qui se renforce, et ce sont les BRICS,
Brésil, Russie, Inde et Afrique du Sud.
Et les pays, de très nombreux pays qui demandent à rejoindre ces BRICS. Les Russes ont condamné déjà la visite de Pelosi à Taïwan par la voix de leur ministre des Affaires étrangères. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de pays de ce qu'on a appelé le tiers-monde, du hors-Occident, qui demandent à rejoindre les BRICS. Le dernier, c'est l'Algérie, quand même. Et que quand on voit les pays qui ont condamné la Russie à l'ONU et aux droits de l'homme sur l'invasion de l'Ukraine, ça représente 40 pays qui représentent moins de 15% de la population mondiale. On ne se rend pas compte en Europe, mais l'Occident est isolé sur l'affaire ukrainienne.
Et d'où le danger.
Et le bloc, il a la Russie, la Chine, mais aussi l'Inde, qui est tout à fait partie. Le Brésil, on n'en parle pas, mais qui est tout à fait partie.
Les fameuses BRICS, oui. Je vous interromps.
Le seul pays des BRICS qui ne soit pas directement partie prenante, mais on a un bloc qui est en train de se constituer, que l'Occident a fabriqué lui-même.
Merci, général Jean-Vincent Brisset. Merci à nos vraies voix qui restent là, bien sûr. Vous dites, les auditeurs de Sud Radio, oui, Taïwan est une nouvelle Ukraine à 70% contre 30. Ça n'a pas bougé, même s'il y a eu des votes supplémentaires. Écoutez cette petite chanson, c'est une chanson qui a été interprétée par des Taïwanais et qui critique la position de la Chine. On se retrouve dans un instant pour le grand jeu de l'actualité, ambiance Taïwan musicale.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
C'est parti pour le grand jeu de l'actualité. Chaque soir à la même heure, nos trois vraies voix jouent, et bien sûr à travers eux, c'est vous qui jouez, les auditeurs de Sud Radio. Trois questionnaires à se répartir et il faudra marquer les points. C'est parti.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Trois thèmes dans l'actualité ont retenu mon attention. Vous savez, les tensions à la frontière entre la Serbie et le Kosovo. Il y aura un petit questionnaire sur l'ex-Yougoslavie avec les villes de l'ex-Yougoslavie. On parle aussi en ce moment des déserts médicaux, de plus en plus de difficultés à trouver des médecins. Nous, nous intéresserons aux différentes activités de nos médecins. Et puis, le train, un enjeu pour le gouvernement. Nous nous intéresserons à notre bon petit train. Alors, nous avons Isabelle Marchandier, nous avons Bernard Cohen-Haddad et nous avons Alaa Oukili comme vraie voix. Qui choisit quoi ?
Hôpitaux.
Est-ce que quelqu'un y voit un, à redire le fait que...
On va pas tirer sur une ambulance.
Ah bah oui, ayez pitié de moi, mon résultat hier était catastrophique.
Les déserts médicaux pour Alaa Oukili. Alors, qui prend les villes de l'ex-Yougoslavie et puis les trains?
Les trains, c'est...
Je crois que j'ai le choix de prendre ce qui reste. Merci mesdames, ça s'appelle l'élégance à la française.
Exactement.
On aura les mœurs.
Eh bien écoutez, justement Bernard Cohen-Haddad, nous allons commencer avec l'ex-Yougoslavie. Écoutez cette belle chanson, Yougoslavia. Il n'y a que sur Sud Radio. Hein. Nous venons d'entendre en moins de 5 minutes une chanson taïwanaise et une chanson serbo-croate, hein, en serbo-croate. Donc alors, je vous donne, Bernard Cohen-Haddad, le nom d'une ville. Vous me dites dans quel pays elle se trouve aujourd'hui, puisque vous savez, l'ex-Yougoslavie a donné...
Oui, alors je vais être très mauvais là-dessus.
Non, mais ça va le faire.
Mes maîtres de géographie vont se retourner dans leur tombe.
Si vous répondez tout de suite, vous avez le point. Sinon, les deux autres vraies voix peuvent intervenir. Dans quel pays se trouve Zagreb ?
Serbie.
Non.
Non.
Qui répond à côté ?
Croatie.
Ouais, alors
excusez-moi. Bah, oui, pardon. Excuse-moi là.
Alors pas de point, pas de point. Dans quel pays se trouve la ville de Novi Sad ? Bernard Cohen-Haddad.
Alors Serbie.
Oui, ça fait un point pour vous. Dans quel pays se trouve Bitola ?
Donnez-moi Croatie.
Non. Qui veut répondre ici ? Donnez un pays de l'ex-Yougoslavie au hasard.
Monténégro.
Je ne veux pas me tromper gratuitement.
Bon, d'accord. Eh bien, c'est en Macédoine du Nord.
Oh là là.
Dans quel pays, Bernard Cohen-Haddad, se trouve Ljubljana ?
Ah ben, si, ça.
Croatie.
Ouais,
non.
Ah, je pense que...
Qui répond à côté ? C'est une capitale, hein, quand
je
même.
Je sais très bien, je sais très bien.
Non,
non, c'est pas possible.
Mais
non,
mais
c'est... Non,
mais je sais même comment ça s'écrit avec un I, mais je ne vais pas la trouver.
La Slovénie.
Ah,
voilà,
Slovénie. Oui,
c'est une honte.
Moi, je suis très bien.
Donc, je vous rappelle, vous les avez en tête, les ex-pays de...
Oui, on les a, mais on n'a pas les capitales.
On continue. Bernard Cohen-Haddad, dans quel pays de l'ex-Yougoslavie se trouve Budva ?
Voilà.
Alors là, je fais joker, mon général.
Allez, donnez-en un.
Macédoine.
Non. Isabelle.
Je ne sais pas, Croatie.
Non. Alaa.
Je ne sais pas.
Monténégro.
Voilà. Ah, j'ai dit tout à l'heure.
Dans quel pays se trouve la ville de Srebrenica ?
Srebrenica, Serbie.
Non. Ici, réponse ? Non. La Bosnie-Herzégovine.
Pourtant, ça a été, un théâtre compliqué, c'est vrai.
Et enfin, dans quel pays se trouve Pristina, Bernard Cohen-Haddad ? Pristina.
Allez, je vais redire Serbie, moi.
Non, justement.
Croatie, alors. Hein.
Moi, j'allais dire la Croatie.
Eh oui.
Non.
Ben voilà. Non, je ne sais pas.
C'est la capitale du Kosovo, Pristina, au centre de laquelle il y a le boulevard Bill Clinton.
Alors, chers auditeurs, nous ne sommes pas ignorants, mais je pense que nous avons démissionné.
Là-dessus, vous n'avez pas été bon.
On va réviser nos cartes de géographie ce soir.
Questionnaire train pour Isabelle Marchandier. C'est parti. Isabelle Marchandier, je vous donne le nom de la gare, vous me dites dans quelle ville ça se trouve. D'accord. La gare de Matabio.
Sénégal
Dans quelle ville, ville Attends, réaction.
C'est pas en Serbie.
Toulouse, pour Alaa Oukili. Okay. Toulouse, oui. La gare de Perrache.
Lyon.
Non, c'est à Isabelle de trouver.
Perrache, Bordeaux.
Non. Alors donc Bernard Cohen-Haddad nous
Lyon.
Dit
c'est Lyon, Perrache.
Lyon, voilà, ouais, c'est ça. Ça fait 2-1.
J'aurais dû prendre ça. En fait.
La gare bénédictin.
Toulouse.
Non.
Limoges.
Oui, Limoges. Alaa Oukili. Pour l'instant, on est à 2-2 entre Bernard et Alaa. La gare Saint-Charles.
Ah oui, non mais je sais, Marseille.
Oui, un point pour Isabelle. La gare Viotte.
Le Dijon.
Non, pas loin. Réponse à côté.
Biote. Saint-Étienne.
Non, c'est Besançon. Non. On n'était pas loin avec Dijon. Ah, la gare La Poterie. Attention, hein. Oh, ça c'est un piège. Ouais, ça faut connaître.
Le. Meaux.
Non, c'est marrant, c'est la ville où je suis né d'ailleurs, personne ici.
Ah bon, non.
Eh bien, c'est la gare, une des gares de Rennes, le quartier de la Poterie à Rennes. Et enfin, dernière question pour vous, Isabelle, la gare de Lyon se trouve dans quelle ville ?
La gare de Lyon se trouve dans la ville de Paris. Ah bah
de Paris, oui.
Enfin, dur, hein.
Enfin, Isabelle. Allez.
Ah non, mais c'est une question comme ça, je suis pas
et
pour un
dernier questionnaire sur les déserts médicaux, c'est parti les docteurs.
J'aurais dû prendre les gars en fait.
Viens voir le docteur Doc Gynéco. Alors, je vous dis à la Oukili, il soigne telle maladie et vous me dites quelle est sa spécialité. Il soigne les maladies de la peau.
Dermato.
Ça vous fait un point. Il soigne les pathologies des vaisseaux sanguins.
Un cardiologue.
Non. Des vaisseaux sanguins. Réponse.
Vénérologue.
Non, on n'est pas loin.
Non, cardiovasculaire, maladie cardiovasculaire, non.
Un angiologue.
Ah oui. D'accord.
On continue, troisième question. Il soigne le cancer, aussi appelé cancérologue. Il est donc un...
Oncologue.
Oncologue. Deux points pour Ala qui, pour l'instant, prend le devant. Vous avez la main, en plus, c'est votre questionnaire. Il soigne, certes, vos dents, mais plus généralement, les pathologies de la bouche.
Un dentiste, un orthodontiste.
Non,
un dentiste,
justement.
Un orthodontiste, un ORL.
Non, un stomatologue.
Non, ça aurait pu, mais spécialité de la bouche, un odontologue.
On n'était pas loin.
Il soigne les pathologies de la communication, de la voix, du langage. Mais en tant que médecin, attention, ce n'est pas un orthophoniste. Lui est vraiment médecin, il est...
Un neurologue ?
Non, j'ai dit... Pathologie de la communication de la voix, ici.
Oui, mais ORL. En médecine...
ORL
Non, un phoniatre.
Ah, je ne connaissais pas. Moi.
Allez, Ala, c'est facile. PH. Il soigne les oreilles, le nez et la gorge.
Un ORL.
Oui, donc un...
Notorhinolaryngologiste,
ouais. Soyez pas feignante. Et puis enfin, il prend en charge la douleur des traitements.
La douleur.
Oui, la douleur. Une fois, deux fois, trois fois.
Non, j'allais dire un anesthésiste, mais non.
L'algologue. L'algologue. Voilà. Victoire d'Ala Oukili 4 et deuxième petite place ex-aequo pour Bernard et Isabelle avec 2 points. Là où vous m'avez déçu, vraiment, c'est sur l'ex-Yougoslavie. On sait qu'il y a la Slovénie, la Croisie, la Serbie, la Bosnie, la Macédoine, etc.
Allez,
c'est vrai. Et c'est pas sympa.
Vous écoutez Sud Radio, il est 18h.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Les vraies voix, Bernard Cohen-Haddad, président du Cercle de Réflexion, Étienne Marcel, Isabelle Marchandier, éditorialiste à Causeur, et puis Ala Oukili, journaliste Sud Radio. Les trois sont prêts, un petit tour de table.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Tout de suite, là. Ça a commencé ?
Oui.
L'émission a commencé ?
C'est ce que je viens de dire.
Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé.
Ah, d'accord.
Le tour de table.
De l'actualité.
Avec la voix de Philippe Bilger qui, dans tous les jingles, fonctionne magnifiquement bien, comme quoi on a une voix hors du commun ou on ne l'a pas. Bernard Cohen-Haddad, c'est à vous, sur votre tour de table. Vous souhaitez revenir sur la limitation des heures supplémentaires à 7 500 €. On est bien sûr dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Bon, l'idée, c'est pourquoi donner d'un côté et bloquer de l'autre.
Ouais, c'est un petit coup de gueule. Parce qu'on était à 5 000 € dans la précédente législature. On sait très bien qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. On sait très bien que beaucoup de salariés les plus fragiles, ceux qui sont à moins de 3 fois le SMIC, n'y arrivent pas et qui veulent faire des heures supplémentaires. Et qu'elles ne soient pas fiscalisées. On sait très bien que les entreprises sont en pénurie récurrente d'emplois dans tous les secteurs d'activité. On cherche des compétences dans l'hôtellerie, dans le bâtiment, dans le numérique, dans la santé, dans les services à la personne. On a un vrai problème et il faut faire des heures supplémentaires pour pouvoir remplir le carnet de commandes quand il est là. Et je trouve dommage, alors que l'on est tous pour dire qu'il faut aider les salariés et les entreprises à, en tout cas, être plus productifs, à ne pas permettre de ce déplafonnement des heures supplémentaires, c'est un peu dommage. Donc là, le Sénat a validé 7 500 €. Moi, j'aurais aimé qu'on explose le plafond pour permettre à ceux qui veulent travailler plus de pouvoir le faire, à ceux des entreprises qui veulent donner du travail en plus à leurs collaborateurs en attendant de trouver des compétences, de pouvoir le faire. C'était ça mon coup de gueule de ce soir. Ouais. Je trouve ça dommage qu'on soit meso voce.
Alors, ça m'intéresse doublement venant de votre part. Vous êtes aussi le président de la CPME pour l'Île-de-France. Les petites et moyennes entreprises peuvent aussi assurer ce fonctionnement des heures supplémentaires. On se dit, bon, bah, les grandes entreprises, oui. Pour les petites,
Vous savez, Frédéric, aujourd'hui, on a vraiment besoin, face à la pénurie de compétences, par exemple en Île-de-France, on a 700 000 demandeurs d'emploi, 440 000 emplois non pourvus. Vous voyez le gap de 300 000 emplois non pourvus, c'est une réalité. Et il faut effectivement que les petites entreprises, les commerçants, les artisans, ceux qui ont du personnel, leur permettent de faire des heures supplémentaires et que ces heures supplémentaires soient défiscalisées, c'est-à-dire exonérées des charges. C'est ça qui est important en période difficile. On sort de 24 mois conflit sanitaire, je dis bien c'était un conflit sanitaire puisque c'est la grève, on a vécu l'augmentation du prix des matières premières, la raréfaction des matériaux et aujourd'hui la raréfaction des compétences. C'est un vrai enjeu et c'est dommage que le gouvernement ne soit pas allé plus loin, sans doute pour des raisons budgétaires, parce que ça coûte à l'État, mais au bout d'un moment, la politique vis-à-vis des salariés et du pouvoir d'achat, il faut aller jusqu'au bout.
Isabelle Marchandier.
Oui, ben ça résulte du constat que le travail ne paye plus suffisamment. Enfin, il y a un problème et ça rejoint les taux de prélèvement excessifs qu'on a en France. On est le pays le plus pressuré au monde avec un taux de prélèvement qui frôle des sommets. Et donc, on a un réel problème de pouvoir d'achat. On le sait, on en a suffisamment parlé ces derniers jours. Mais voilà, après, il y a aussi l'impôt sur les entreprises. Les entreprises payent trop de charges sociales et les coûts de production qui sont toujours trop élevés. On a toujours le même problème. Enfin, je veux dire, ça fait 40 ans que ça dure. On est toujours là. Et c'est pas la politique de chèque du président qui va régler le problème. Il y a des problèmes structurels au niveau économique et ça ne fait que s'accroître d'année en année. Donc c'est consternant, quoi. Et là, se greffe encore, ce que vous disiez précédemment, on a un problème de recrutement. Les gens ne veulent plus travailler, ne veulent plus. Il y a un problème d'envie de travail, en fait.
Oui. D'envie et de possibilités aussi, parce que j'imagine quelqu'un qui a la possibilité d'avoir un travail, mais qui va devoir rentrer le soir tard, et donc il habite en Île-de-France, et de rentrer en voiture. Et c'est pas possible parce qu'on passe des heures dans les embouteillages ou alors rentrer à 23h30 dans les transports en commun. Je suis désolé, c'est pas toujours sécure à la Oukili.
Oui. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Cohen Haddad par rapport au gap entre les demandeurs d'emploi, les chômeurs, les inactifs qui sont en capacité de travailler et le nombre de postes non pourvus. Je ne comprends plus en fait cette situation, surtout qu'on hurle dès qu'on entend que l'on fait venir des personnes de Tunisie pour travailler dans l'hôtellerie et de la restauration telle qu'on vient de faire cet été, ou bien qu'on fait venir des personnes du Maroc pour faire les vendanges en septembre, ou bien qu'on fait venir des médecins d'Algérie comme ça a été encore
même
le cas.
Même des curés d'Afrique.
Mais oui, c'est inique. Alors on se plaint que les gens, que la France devienne une passoire et qu'on fasse venir des gens et que sais-je, et le grand remplacement. Mais d'un autre côté, les gens aujourd'hui sont mieux avec les intérêts, les allocations chômage qu'au travail. Oui. Et alors, il y a des entreprises qui ont fait des efforts assez conséquents pour recruter, notamment dans la restauration, on ne peut pas le nier, des augmentations allant de 10, 17 jusqu'à 20%. On propose même d'être logé.
Certains, mais pas tous. Hein.
Oui,
certains, mais pas
tous. Certains, hein. Absolument, bien sûr. Mais à un moment, il faut quand même, vous savez, Frédéric, à un moment, il faut que les gens se rendent compte que 80% des Français gagnent moins de 2000 euros par mois et qu'à un certain moment, il faut que tout le monde y mette un petit peu du sien.
Mais il y a aujourd'hui des gens qui travaillent et qui sont à la rue parce qu'ils ne gagnent pas assez pour payer un loyer. Parce que là aussi, les prix des loyers, il faut s'intéresser.
Mais bien entendu. Et ça a été le grand absent de la campagne, c'est-à-dire le plus gros budget dans un ménage pour
c'est
les Français,
le loyer.
C'est-à-dire
le
logement.
Voilà.
Absolument.
Et c'est en train de devenir le déplacement. Donc là aussi, toutes ces questions, c'est
un...
je crois je crois qu'on a fait le tour du tour de table. C'était passionnant. Merci, parce que là maintenant nous avons un sujet d'actualité important. Nous allons revenir sur ce qui est sur sur ce qui s'est passé en Afghanistan. On est bien là sur Sud Radio, et puis surtout vous les auditeurs, vous n'hésitez pas, la consultation sur le compte Twitter avec notre débat de 18h30. Nous vous posons la question: nos forces de l'ordre doivent-elles s'équiper de drones? Allez, à tout de suite.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Traditionnellement, dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, à 18h15, nous évoquons l'un des points forts de l'actualité. Alors, celui-ci en est un. Le chef d'Al-Qaïda a donc été tué par un drone américain à Kaboul, en Afghanistan. Une annonce faite par Joe Biden, qui déclare « Sur mes ordres, les États-Unis ont mené à bien une frappe aérienne ». Nous allons accueillir Sarah Daniel, qui est grand reporter au magazine L'Obs. Elle rentre d'un reportage en Afghanistan en juillet. Nous l'écoutons dans un instant. Juste l'occasion de vous dire que ce fameux Ayman al-Zawahiri, donc l'émir d'Al-Qaïda, est égyptien. Il a été tué dans la nuit de samedi à dimanche. Il était le successeur de Ben Laden, qui lui aussi avait été tué par les forces américaines. Il était, lui, au Pakistan. Les USA promettaient 25 millions de dollars pour le retrouver. Il était considéré comme un des cerveaux des attentats du 11 septembre qui ont fait, je vous le rappelle, 3000 morts. Bonsoir à vous, et merci surtout de nous accorder un petit peu de temps après un reportage harassant tout au long du mois de juillet. Sarah Daniel, je précise que, et on va le donner peut-être en exclusivité sur Sud Radio, lorsque je dis l'excellent magazine L'Obs sortira, on aura en une: mariage forcé, être une fille sous les talibans, et c'est signé de votre plume. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous revenez d'Afghanistan. Alors, déjà sur le contexte, il y a bien sûr cette espèce de volonté permanente de venger ces morts de la part des États-Unis, mais il y a aussi le constat qu'en Afghanistan, c'est encore Al-Qaïda et ses talibans, d'une certaine manière, qui ont la main, c'est ça ?
Bah, en fait, il y a un jeu dupe entre les talibans et les Américains. Les Américains reprochent aux talibans d'avoir continué à faire de leur pays un endroit où pouvaient se recueillir les Al-Qaïda. Et c'est donc, on en a eu la preuve quand on a... Parce que donc Zawahiri a été arrêté en plein centre de Kaboul. Enfin, ça, c'est quand même assez remarquable. Et puis d'un autre côté, évidemment, les talibans disent que les Américains ont aussi violé les accords de Doha, puisque ils ont fait cette frappe de drone en plein territoire taliban en Afghanistan.
Oui. Alors d'ailleurs, le président a rappelé qu'il n'y avait aucune présence sur le territoire, on va dire une présence physique des Américains, mais qu'ils avaient envoyé ces deux missiles par drone. Bon, c'est un détail, mais du coup, ils sont raccord là, les Américains.
Ah oui, non, ils ont envoyé un drone. Abattre Zawahiri, oui.
Oui, mais est-ce que ça ne suppose pas, effectivement, pour les talibans, qu'il y aurait, que la menace, en fait, pèse sur toutes les têtes qui dépasseraient et que les États-Unis peuvent de nouveau leur faire la guerre comme avant. C'est cela, alors qu'on imaginerait qu'après le fiasco afghan, bon là, ils ont eu leur revanche.
Qu'il y a pratiquement un an, jour pour jour, les Américains quittaient l'Afghanistan.
Exactement. On s'imaginerait que là, ils partiraient et puis ils abandonneraient l'Afghanistan aux talibans et puis c'est plié. Mais en fait, non.
Sarah Daniel.
Vous avez absolument raison. En fait, ce qui se passe, c'est que les Américains sont en train de dire, à chaque fois qu'il y aura une menace qui pèsera plus ou moins sur les intérêts américains, il y aura une frappe qui va correspondre. Il n'y a plus de safe haven, de sanctuaire pour le terrorisme en Afghanistan. Et quand les intérêts des Américains seront menacés par telle ou telle figure, elle sera frappée.
Bernard Cohen-Haddad, une réaction et puis peut-être une question ?
Non, moi je crois que c'est intéressant ce que vient de dire Sarah Daniel. On a bien vu que les Américains, et ce que disait là aussi, c'est que ça a été une fuite, ce départ d'Afghanistan. Ça a été comment se sortir de ce chancre afghan. On peut juste regretter que l'Afghanistan retombe dans les ténèbres. Ça, c'est quand même important de le dire. Et que les Américains, en revanche, suivent la doctrine israélienne, c'est qu'ils estiment qu'ils peuvent taper n'importe où dans le monde, quand leurs intérêts sont en jeu, y compris pour chasser ceux qui sont à l'origine des attentats du 11 septembre et tous ceux qui sont contre les intérêts américains. C'est important de le dire, de le souligner. Ça veut dire qu'ils vont mettre encore des moyens dedans. Ceci, ça ne règle pas le problème de la population afghane.
C'est assez particulier. Oui, raison, Sarah. Oui, allez-y.
Non,
oui.
Je veux juste dire un mot, sauf qu'on ne va pas regretter évidemment la disparition de Zawahiri, responsable des attentats du 11 septembre et qui menace à peu près les intérêts de tout le monde sur cette planète, pas seulement des Américains.
La présence d'Al-Qaïda donc, en Afghanistan, qu'est-ce qu'on peut en dire, Sarah Daniel?
En fait, ils étaient encore très liés avec le clan Haqqani, qui est une des mouvances des talibans et qui est représentée en ce moment au gouvernement. Mais on dit aussi dans le pays que ce sont les Haqqani, justement, qui ont donné les informations aux Américains pour l'abattre. Donc ça, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et aussi, il y aurait peut-être des tentations du Pakistan, qui est très proche du clan Haqqani, de démontrer que les terroristes sont surtout protégés par les Afghans plutôt que par les Pakistanais.
Oui, parce que le Pakistan joue un rôle crucial aussi. Isabelle Marchandier.
Ouais. Alors, j'avais une question. Oui. Doit-on craindre des représailles éventuelles une volonté de...
Il n'y a plus de présence américaine vraiment officielle, à part quelques membres d'ONG, donc non, pas spécialement. Non,
mais à l'extérieur, par voie de terrorisme, je pense que c'est ce que vous voulez préciser, Isabelle Marchandier.
On parle beaucoup de guerre des drones.
Surtout, est-ce que les terroristes Al-Qaïda, donc leur chef vient d'être abattu, est-ce qu'ils ont encore une force de frappe, et surtout, est-ce que cet acte américain peut déclencher quelque chose? Est-ce que vous, Sarah Daniel, alors c'est difficile, hein, vous rentrez d'Afghanistan, on rappelle que les talibans ne sont pas Al-Qaïda et vice-versa, hein, d'ailleurs.
Oui, même si, comme je vous disais, il y a quand même une mouvance Haqqani qui était assez proche d'Al-Qaïda. Mais d'une manière générale, à l'échelon mondial, ils sont plutôt en perte de vitesse, Al-Qaïda, sauf dans certains pays, sauf au Yémen. Il y a un petit groupe en Libye, enfin, mais bon, ils ont perdu beaucoup de pouvoir par rapport à Daesh. C'est Daesh qui a un petit peu eu finalement la peau de la force de frappe d'Al-Qaïda. Donc, de toute façon, ces groupuscules terroristes, on peut toujours craindre, évidemment, des représailles. Enfin, je ne sais pas s'il faut les appeler représailles, mais en tout cas, des frappes ou des actes terroristes.
Une réponse, en tout cas. Bernard Cohen-Haddad.
J'avais une question pour Sarah Daniel, puisqu'elle a passé un certain nombre de jours en Afghanistan, et sur ce conflit et cette guerre dans la guerre entre Al-Qaïda et Daesh, est-ce qu'on sait qui va gagner et qui finance qui? Parce que ça aussi c'est important, parce qu'une guerre entre ces deux tendances et deux mouvances extrémistes dépend aussi de moyens financiers, c'est pas uniquement des fatwas et des prêches, il y a derrière beaucoup d'argent pour acheter des armes, pour acheter tout simplement des hommes.
Absolument.
Voilà. Est-ce que vous avez pu vous renseigner, savoir un petit peu quels sont les nouveaux maîtres du monde qui financent ce type de terrorisme?
Vous savez, quand on se penche sur la situation de l'Afghanistan, on sait très bien que un peu les principaux d'œuvre dans ce pays, c'est très très souvent le Pakistan. Il y a les services secrets pakistanais, le fameux ISI, qui ont des un peu d'ailleurs, un de vos participants parlait d'Israël, mais un petit peu à l'israélienne, finance comme ça des groupuscules très proches terroristes d'Al-Qaïda ou même de Daesh pour semer un peu la zizanie en Afghanistan et ouvrir comme ça une zone d'instabilité dans leur bras de fer contre l'Inde. Mais donc le Pakistan est évidemment à regarder de près dans ces financements qui arrivent. Et puis l'autre financeur, évidemment, c'est l'Arabie Saoudite et un certain nombre de princes. Forcément Mohamed Ben Salman, mais enfin en tout cas il y a tout un tas de princes.
Et ça repose effectivement la question de la venue la semaine dernière de ce prince Mohamed Ben Salman à l'Élysée, reçu dans un dîner de travail par le président Emmanuel Macron. Alaa Oukili.
Absolument.
Est-ce que cette victoire symbolique des États-Unis qui se félicitent d'avoir éliminé l'une des têtes pensantes du 11 septembre n'est pas un échec malgré tout? Parce qu'il me semble, et vous l'avez confirmé tout à l'heure, que les États-Unis envoient un message pour dire qu'il n'y aura plus de terrorisme et puis de safe haven pour le terrorisme en Afghanistan. Mais alors, cette génération qui a été élevée par les États-Unis, cette génération post-2001 afghane, toute petite, minuscule, certes, génération des villes, éduquée, ouverte sur le monde, qui danse, qui chante, qui fait de la musique, qui pratique art, science, etc., en toute décomplexion, est-ce que celle-là n'a pas été définitivement abandonnée? Et est-ce que demain, il ne pourrait pas y avoir, si je puis dire, des représailles de la part de ceux-là même que les États-Unis ont abandonné?
Sarah Daniel vous répond, je vous le rappelle, elle rentre d'Afghanistan, elle y était en juillet. On conclut là-dessus, Sarah Daniel.
Bien sûr, ça rappelle juste que les Américains se sont arc-boutés maintenant et repliés sur leur petit pré carré d'égoïsme et voilà. Donc ils ont éliminé Ben Laden, ils ont éliminé Al-Zawahiri. Ça peut pas être vraiment considéré comme un échec. Mais ce qui est un échec flagrant, c'est la manière en effet dont ils se sont ils ont quitté l'Afghanistan, dont ils se sont lavé les mains en effet de toutes ces populations qui souffrent maintenant cruellement sur le plan économique, et les femmes sur le plan des libertés et de tous leurs droits. On leur a un moment ouvert une fenêtre d'espoir pour la refermer violemment. Et ça, c'est vraiment la faute des Américains.
Merci beaucoup, Sarah Daniel. Je le rappelle, jeudi, votre article fait la une de l'Obs. Mariage forcé, être une fille sous les talibans. Le chef d'Al-Qaïda donc tué grâce au drone. Alors, d'autres choses se passent beaucoup avec le drone. Et notamment, aide les forces de sécurité. On l'a vu en Espagne tout au long de cet été. Ça tombe bien, puisque dans un instant, notre thème, c'est faut-il équiper encore plus nos forces de l'ordre de ces drones? Vous donnez votre avis sur le compte Twitter de Sud Radio.
Les vraies voix, Frédéric Brindel.
Nous comptons sur vous, hein. Donnez-nous votre avis sur ce drone. Le drone, il est encore l'un des objets en vogue de cet été, le drone. Une drone de machine, d'ailleurs. Quel jeu de mots. Qui sert à venir à bout de l'un des plus grands terroristes de la planète, le chef d'Al-Qaïda, tué par les Américains, nous venons d'en parler. Mais le drone est la star en Espagne. Récemment, dans la région de Valence, un adolescent a été sauvé de la noyade grâce à cette machine qui l'a repéré et lui a livré un gilet de sauvetage. D'ailleurs, en Espagne, la police est équipée de drones et les automobilistes, notamment, sont mis à nu, entre guillemets. On peut tout voir, alors souhaitable ou pas en France. Nous allons en parler avec notre grand témoin, c'est un des grands spécialistes, il est directeur de la sécurité et de la tranquillité publique à Aix-les-Bains, fort de son expérience d'ancien membre du GIGN. Bonsoir Florian Berthet.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bon, nous venons de parler de ces drones. Alors, rappelons-le, il y a une loi sur l'usage par les forces de l'ordre, en grande partie validée par le Conseil constitutionnel, qui a été donc faite en janvier dernier, dans le cadre de la loi sur la respectabilité pénale et la sécurité intérieure. Mais gendarmes et policiers devront donc obtenir une autorisation du préfet. Pas d'autorisation pour la police municipale. Ça veut dire quoi, autorisation du préfet? Ça veut dire pas d'utilisation en cas d'urgence. On peut utiliser pour la prévention des atteintes à la sécurité des personnes, des biens, la prévention des actes terroristes, la régulation des flux de transport, la surveillance des frontières et secours aux personnes. Voilà, pour être très clair. Cher Florian Berthet, est-ce que ce drone est aujourd'hui, eu égard à ses possibilités, un incontournable pour assurer du mieux possible la sécurité de nos concitoyens?
Alors c'est certain que c'est un outil qui aujourd'hui nous fait tous rêver dans le milieu de la sécurité, parce qu'il est en pleine expansion et est au début de ses capacités, de son développement. J'entends par là qu'il peut être utilisé à plusieurs fins et pas uniquement vidéo. Aujourd'hui, le cadre légal est limitant mais nécessaire pour appréhender toutes les difficultés que cela pourrait entraîner, mais aussi pour garantir la sécurité et aussi garantir, je dirais, la vie privée. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, c'est un outil indéniable. Il peut être utilisé effectivement après déclaration ou en tous les cas demande d'autorisation au préfet dans un contexte très précis et particulier et qui doit être motivé. En somme, il faut préciser au préfet pourquoi et dans quelle mesure cet outil est indispensable.
Et ça, ça prend combien de temps, Florian ? Combien de temps ça prend pour demander au préfet et avoir l'autorisation ?
Moi-même, je ne l'ai pas fait, hein, puisque cette doctrine n'existait pas dans le passé. Et au GIGN, on est en mesure d'utiliser, dans le cadre de nos missions spécifiques, le drone. Et on l'a largement utilisé déjà dans le passé. En tout état de cause, là, il est plus entendu l'utilisation d'un drone pour surveillance de manifestations, pour des missions qui sont anticipées et prévues. Donc généralement, les traitements de dossiers oscillent en préfecture, mais on peut s'attendre à une demande faite sous une quinzaine pour qu'elle puisse être traitée, qu'un arrêté du préfet puisse être pris, j'imagine, et puis pour que derrière, l'autorité qui va utiliser cet outil puisse bénéficier de toutes les autorisations nécessaires.
Oui, quand même. Alors, Florian, on revient vers vous, mais une réaction d'Isabelle Marchandier.
Oui, moi, j'avais une question sur justement le fléau des rodéos urbains qui pourrissent la vie des habitants, notamment à Lyon. Hein, le maire écologiste ne fait pas grand-chose. Hein, les Dalton, le groupe des Dalton nargue toujours le maire. On a dit que les drones permettaient justement d'accentuer la surveillance et de permettre la poursuite de ces motos sauvages. Mais le problème, c'est que si j'ai bien compris, c'est que la loi empêche de manipuler le drone loin, hors du champ de vision. Donc comment on peut poursuivre, comment vous pouvez poursuivre les motards tout en ayant cette loi qui vous oblige à ne pas perdre le drone de vue.
Alors, Florian Berthet.
Sur cette difficulté, il faudra s'adapter. Typiquement, dans des unités opérationnelles dont j'ai fait partie, le drone pouvait être utilisé directement et rien n'empêchait l'opérateur d'être déplacé en étant transporté par un véhicule avec un conducteur. Donc, c'est des choses qui pourraient très bien se faire. En somme, le drone n'est pas perdu de vue de l'opérateur et l'opérateur, lui, est transporté par un conducteur. Malgré tout, ça, ce sont des utilisations, je dirais, en France métropolitaine, qui sont contraintes par une loi et qui, à mon sens, seront amenées à évoluer. Là, pour l'instant, les opérateurs vont s'adapter. On va trouver des biais, je dirais, pour utiliser au mieux l'outil. Mais l'outil est utilisé à 5 ou 10%. Bien évidemment, dans le cadre des rodéos urbains, comme c'est évoqué, il faudrait pouvoir permettre aux drones de pouvoir évoluer sans être contrôle visuel de l'opérateur.
Ah oui,
c'est déjà ce qui est fait dans certaines mesures exceptionnelles, hein, dans le cadre du contre-terrorisme, mais pas que. Si on parle de sécurité civile, l'utilisation du drone dans le cadre de recherches particulières ou d'opérations de secours, hein, peuvent être faites aussi bien par la gendarmerie, hein, qui est leader, mais aussi bien que les pompiers. Hein, la sécurité civile sont leaders dans l'utilisation des drones dans des recherches et à ces moments-là, de manière exceptionnelle, sous autorisation des pouvoirs de police du préfet, le drone est utilisé et piloté, et là, pour le coup, pas à vue, hein, puisqu'on est sur la recherche et la vue ne peut pas être forcément conservée.
Alors, les auditeurs de Sud Radio, évidemment, vous êtes sollicités sur la consultation. Donc, la grande question de ce débat, nos forces de l'ordre doivent-elles s'équiper de drones ? Vous dites non à 55%. C'est dire qu'il y a peut-être une gêne. Alors, une réaction au 0800 300 300. Renaud de Rodez. Bonsoir Renaud. Vous y voyez plus la nécessité de sécurité ou le danger de la, l'autonomie des uns et des autres et, allez-y. Oh, y a un gros souffle là.
Oui, il y a un gros souffle, ça vient pas de chez moi. Ah. bonsoir Sud Radio. Contrairement aux 55%, moi j'en suis complètement favorable.
Ah.
On sait que certaines équipes de gendarmerie, moi j'ai vu des reportages où effectivement certaines équipes de gendarmerie s'en servent en plus des hélicoptères pour la surveillance autoroutière. Donc moi je pense qu'il faut étendre ça, clairement, comme je disais à Zach tout à l'heure, il faut étendre ça pour les quartiers et pour tout, que ce soit pour la sécurité du citoyen, mais aussi pour la sécurité du policier, pour la moindre intervention, comme ça au moins... Ça limitera et ça réduira certains risques.
Ouais, clairement. Très, ouais, très intéressant.
On est dans une société aujourd'hui qui est dangereuse à plusieurs égards, que ce soit sur la route, que ce soit les problèmes dans les quartiers, que ce soit dans les quartiers aussi envers les policiers ou autres. Donc il y a un moment donné où si cet outil est à disposition de l'ensemble de nos forces de l'ordre, on pourra peut-être essayer d'aller dans quelque chose de plus... qui permettra de régler pas mal de problèmes.
Ouais, c'est vrai, Renaud. Ça va un peu dans le sens de ce que disait Isabelle Marchandier, parce que quand elle a parlé des rodéos urbains, tout de suite, ça a fait-il. On dit, ah oui, oui là, effectivement, par exemple, le drone. Donc, et vous évoquiez Zach, on le salue. Zach est au standard, parce qu'évidemment, à chaque fois, il vous brief, vous, les auditeurs, quand vous intervenez. Merci, Renaud. Ben, on va justement réagir à ce que vient de dire Renaud. Oui, à la Wikili.
Moi, je me posais une question, parce que, bon, je comprends le point de vue de Renaud. Je comprends également le point de vue de Monsieur Berthet, mais je me demande qu'en est-il des risques en fait que impliquent les drones. Je me souviens que notre ministre de l'Intérieur dénonçait la semaine dernière le fait que ces objets de technologiques étaient vulnérables, notamment au piratage, qu'ils pouvaient être armés et que on pouvait totalement en fait les déployer dans le cadre de la sécurité publique,
retourner l'arme contre soi,
notamment
finalement.
Pour des grands événements comme les JO 2024, pour que finalement ils soient piratés en deux temps trois mouvements et qu'ils se transforment en armes de guerre. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Berthet?
Alors effectivement, le piratage est possible, mais en fait, à toute action de piratage, il existe des contre-mesures. Donc là-dessus, typiquement, la loi référence, je dirais, des drones par rapport à leur poids, leur masse et leur capacité d'emport et leur puissance qui sont référencées et qui sont autorisées. Mais typiquement, la technologie n'est pas assez détaillée, n'est pas référencée ou n'est pas définie, puisque... Encore une fois, le sujet est encore, je dirais, mal maîtrisé. Mais les drones, en fait, ne volent pas tous de la même manière. Certains ont des capacités de vol via du signal radio, d'autres, c'est du vol avec du signal filaire, ils sont statiques, hein, ils sont simplement montés en altitude sans se déplacer réellement. D'autres sont programmés par un système de vol automatisé. Donc en fait, ils ne sont pas en onde radio et dès qu'ils perdent de signal, ils reviennent sur place. Donc en fait, la technologie, si vous voulez, au travers de la loi, elle n'est pas vraiment définie. On parle de drones, on parle d'aéronefs volants, pilotés à distance, mais finalement, on ne définit pas exactement quel type de drone ou quel type de technologie. Et ça, c'est vraiment en train d'évoluer. Bon. Donc oui, il y aurait possiblement un risque que ça puisse chuter sur une foule. Et c'est pour ça qu'il faut bien en amont définir dans quelle mesure on va utiliser le drone et quel type de drone. C'est-à-dire que lorsque cette demande peut-être sera faite au préfet, on doit dire quel type de drone et quel type de technologie aussi on utilise. Ce serait bien que ce soit regardé de près.
Et nous nous régalons de votre savoir sur cet outil qui défraie la chronique tout au long de ce mois d'août. Bernard Cohen-Haddad.
Oui, moi je crois qu'il faut bien distinguer l'usage civil qui doit être contrôlé et même de manière extrêmement rigoureuse parce que c'est une atteinte à la vie privée et il peut y avoir des dégâts collatéraux sur des personnes, des publics et aussi sur des biens. En revanche, je suis beaucoup plus mesuré sur la capacité à verrouiller l'usage public, c'est-à-dire militaire. Je crois que là-dessus, il faut vraiment que l'État fasse preuve d'inventivité parce que vous avez évoqué dans le cadre de vos activités, la capacité aussi de kidnapper les drones. On peut les détourner, on peut les prendre et les kidnapper, détourner leur utilisation et les mettre dans des camions ou tout simplement les détruire. Et puis, il y a aussi une volonté aujourd'hui de pouvoir protéger les personnels dans une période où la violence et la réaction est de plus en plus forte, où la vie humaine est de moins en moins à moins de valeur. Il est important de doter nos forces de l'ordre, mais aussi les pompiers, mais aussi les forces de santé, ceux qui vont intervenir sur des attentats ou tout simplement sur une chute d'avion, ce genre de choses.
Le drone permet de rester à distance.
De rester à distance et d'avoir en amont une information pour une intervention plus pérenne et protéger les personnels qui sont sur site et faire en sorte que l'intendance précède une action qui met du temps à intervenir.
C'est vraiment passionnant. Alors, restez avec nous sur Sud Radio. Nous revenons tout de suite pour évoquer cette question des drones, l'une des questions de ce mois d'août.
Les vraies voix, Frédéric Brindel. D'ici,
tout est possible. tout est beau sur la terre, tous les hommes sont égaux, vu d'avion.
Eh oui, vue d'avion, c'était beau, Michel Delpech, mais désormais, c'est vue du drone. Et la question que nous vous posons, nos forces de l'ordre doivent-elles être équipées de drones? Nos vraies voix ce soir sont Isabelle Marchandier, chroniqueuse à Causeur, Bernard Cohen-Haddad, le président du centre de réflexion, du cercle de réflexion, Étienne Marcel, et puis Ala Oukili, journaliste Sud Radio, et notre grand expert sur la question des drones et de la sécurité, et plus généralement de la philosophie de cet outil, Florian Berthet, qui est donc ancien membre du GIGN, directeur de la sécurité et de la tranquillité publique à Aix les bains. Quand on a évoqué la consultation, Florian, de nos auditeurs, il y a 55% qui ne souhaitent pas. Je pense qu'ils ont en tête les images qu'on a vues de l'Espagne récemment, où la Guardia Civile peut faire grosso modo à peu près ce qu'elle veut avec dans le règlement, bien sûr, avec le drone, c'est-à-dire voir si par exemple une voiture a coupé une ligne blanche. C'est-à-dire que on imagine, nous aujourd'hui, qui sommes un peu traqués par les amendes, par l'observation. C'est ça qui fait peur. Alors, est-ce qu'il y a finalement, pour nos forces de l'ordre, à peut-être upgrader le rôle de ce drone et à dire on l'utilise pour les grandes causes? C'est un peu ça.
Alors, effectivement, vous me dites s'il y a trop de vent. Hein. Je suis en vacances.
Ah, c'était vous, le vent. Bon, on l'entendait un petit peu.
C'est moi le coupable, donc n'hésitez pas.
Allez-y, pour l'instant, c'est bien. C'est bien. C'est bien, Florian Berthet.
Là-dessus, effectivement, on peut se poser cette question. Ça peut paraître inquiétant, mais je pense que le cadre légal doit être défini, le contour un peu mieux défini, mais surtout, c'est quels pouvoirs doivent être donnés aux forces de l'ordre. En somme, aujourd'hui, on voit bien qu'on a des difficultés collectives à comprendre, par exemple, pourquoi certains agissements ne sont pas punis et d'autres sont laissés faire, peut-être, ou en tous les cas dans le sentiment, puisque souvent, on parle de sentiment d'insécurité et on a du mal à définir réellement ce qu'est l'insécurité. Les chiffres sont parfois pas en adéquation. Là-dessus, sur l'utilisation du drone, c'est souvent pensé avec une utilisation vidéo. En somme, filmer les gens,
oui,
et derrière
ça,
pouvoir apporter une répression. C'est effectivement en partie réel. Maintenant, il peut très bien être défini que le drone ne puisse pas être un outil utile à la vidéo-verbalisation, je dirais, ou à la verbalisation en général, au travers d'infractions qui sont liées au code de la route et qui seraient utilisées uniquement dans le cadre, par exemple, de la police administrative, c'est-à-dire la sécurité des gens. Ouais. Voilà, ça pourrait être ce type d'utilisation. On pourrait aussi penser que ça puisse être utilisé dans un contexte particulier de sécurité publique, tout en respectant donc la vie privée des gens.
Bon, alors Florian Berthet, peut-être demander l'avis d'Isabelle Marchandier, jusqu'où justement cette limite?
Alors moi, une petite réaction, oui, par rapport à tout à ce sujet, mais moi j'ai l'impression que c'est un faux problème en fait. Enfin, on équipe, on met plus de bleu dans la rue, voilà, c'est les drones, on va mieux équiper les forces de l'ordre, très bien. Mais en fait, le vrai problème, c'est le laxisme de la justice pénale, c'est l'incarcération qui devient une exception, c'est l'aménagement des peines qui devient la norme absolue, c'est tous ces délinquants qui ont des rappels à la loi ou alors c'est des condamnations avec sursis, c'est la sévérité des peines qui n'est pas appliquée, et l'exécution. On le voit dans plein de cas, les OQTF.
Alors,
voilà, moi je pense que c'est un faux problème. C'est bien beau, hein, les drones, très bien, c'est encore un gadget. J'ai l'impression que c'est vraiment des gadgets qui ne vont pas être suivis des faits si la justice est encore défaillante, si la justice pénale est encore défaillante.
À la Oukili.
Alors juste en préambule, je ne pense pas que la justice soit si défaillante que ça, et je voudrais apporter quand même mon soutien à tout le corps des magistrats et de la justice qui travaillent beaucoup, mais qui malheureusement ne peuvent pas prononcer des peines comme elles le voudraient, notamment parce qu'on n'a pas beaucoup de place
en prison. Ah ben ça, je suis d'accord, hein,
donc,
il en faut 15.
Il y a ça. Maintenant, il y a le sujet des drones. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis si longtemps que ça dans le civil, ou sur lequel il faut quand même qu'on légifère encore un peu et sur lequel les risques sont assez encore flous. Vous voyez, moi j'ai posé la question à monsieur Berthet tout à l'heure sur le piratage, mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas comment ça peut se produire, on sait que ça arrive, mais on ne sait pas encore comment on peut y faire
mais
face.
Mais Florian Berthet dit on trouvera une parade aussi. Ben, c'est, après, c'est toujours la course contre la montre.
Et il ne faut pas attendre. Nous, voilà. On a des échéances qui sont sont très claires, notamment avec l'organisation de la Coupe du Monde de rugby, etc. Mmh. Et si ces outils sont vraiment nécessaires et efficaces, il faut que l'on puisse comment dire, prévenir des chaos qui sont en fait facilement prévenables. Ouais. Si
oui,
je
mais oui. Allez-y Isabelle, oui,
qu'est-ce qu'auraient fait les drones avec le, au Stade de France si, à partir du moment où l'ordre était de ne pas bouger et de gazer. Enfin, les flics avaient cet ordre-là.
Des vidéos.
Et vous, Bernard Cohen,
je crois qu'on est dans le cadre d'une évolution technologique. Il faut que les forces de l'ordre puissent y avoir droit, accès, y compris en matière de formation et de moyens, parce que ça coûte cher des drones, ça coûte cher d'information des personnels. Et si on ne forme pas les personnels, ça ne sert à rien d'avoir des drones dans des valises.
Et alors, la conclusion avec Florian Berthet, elle en a parlé à la Wikili. Bon, elle a parlé de la Coupe du Monde de rugby, mais ça, à la limite, c'est plutôt facile. On a le savoir-faire. Maintenant, cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec les 12 km sur la Seine, il y aura nécessairement besoin des drones, par exemple, à ce moment-là, Florian Berthet, pour conclure. Hein.
Alors, nécessairement, à mon sens, oui. En fait, s'ils ne sont pas utilisés, ça se laisse passer d'un outil qui est quasi indispensable. Évidemment, il serait utile et évidemment, il sera pertinent. Maintenant, j'aimerais juste rebondir aussi sur le côté magistrat, force de l'ordre et cette problématique d'application des peines. Le drone est un outil supplémentaire, mais ce n'est pas ça qui va révolutionner effectivement la réalité du terrain. Il y a vraiment deux choses bien différentes. Le drone est un outil supplémentaire qui, pour la sécurité publique, peut être très utile. Après, toutes les autres problématiques, on a un drone, des caméras piétons, de la vidéoprotection. Si derrière, ce n'est pas suivi d'effets, que ce soit des effets de la part des forces de l'ordre, de la part des magistrats ou de la part des capacités en prison, c'est-à-dire de l'effectivité des peines, effectivement, le système ne fonctionne pas.
Eh bien voilà, c'était la conclusion de ce débat qui vous a... Alors, petite évolution, on est à 55-45, là on est à 54-46, on va dire 1% de la consultation des auditeurs de Sud Radio ont vu quand même l'importance, mais pas que, c'était très clair. Encore merci Florian Berthet, ancien membre du GIGN, directeur de la sécurité et de la tranquillité publique à Aix-les-Bains. C'était un plaisir. Et alors, attention, le dernier tour de table, là où qu'il y arrive.
Les vraies voix Sud Radio.
Allez, c'est le principe. Pendant le mois d'août, le tour de table, on prend le temps chacun. On a eu celui d'Isabelle Marchandier, celui de Bernard Cohen-Haddad. Et voici celui international, finalement, mais pas que, d'Ala Oukili. Pourquoi le remplacement du gaz russe par le gaz azerbaïdjanais par l'Union européenne? Est-ce une mauvaise idée? On rappelle que l'Azerbaïdjan, aujourd'hui, est en conflit ouvert avec l'Arménie.
Absolument. Et c'est dans ce contexte-là que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Bakou lundi 17 juillet.
La capitale, hein, et aucun jeu de mots, avoir le gaz à Bakou, bien sûr.
Ah oui, c'est vrai, ici, merveilleux, magnifique.
Bien sûr.
Donc, la présidente de la Commission européenne s'est rendue lundi 17 juin pour sceller un accord gazier avec l'Azerbaïdjan. C'est une solution de sécurité énergétique pour réduire la dépendance européenne au gaz russe dans le contexte de guerre en Ukraine que l'on connaît. L'Union européenne cherche donc des alternatives au gaz russe avant l'arrivée de l'hiver. Est-ce qu'on peut lui reprocher ? Non.
Non.
Non, sachant qu'on est déjà en train de mettre en place des rapports pour savoir... quelles entreprises pourraient bénéficier du gaz en cas de pénurie cet hiver et pourraient encore fonctionner contrairement à d'autres.
Donc c'est important de trouver des partenaires.
Exactement.
Comme il est évoqué de plus en plus l'Algérie et la Norvège qui sont déjà producteurs. Et voilà.
Absolument. Mmh. Mais l'alternative au gaz russe que nous propose l'Union européenne nous interroge parce que le gaz de l'Azerbaïdjan pose... c'est pas un gaz propre, mais entendez-moi quand je dis gaz propre. On parle d'un État autocrate, l'un des pires en matière de liberté de presse. Plus récemment connu donc pour le massacre des Arméniens dans la région du Haut-Karabakh. Et pour rappel, le président donc de cet État, qui va devenir un partenaire, qui est déjà un partenaire, attention, l'Azerbaïdjan livre déjà une quantité minimale de gaz à la Grèce, à l'Italie, à des pays européens. Mais là, il s'agit de doubler les approvisionnements en gaz azéri pour l'Union européenne. Et le président donc de ce pays qui s'appelle Ilham Aliyev s'en s'enorgueillait il y a peu d'avoir chassé les Arméniens comme des chiens et exprimé des ambitions sur une région du sud de l'Arménie et sur le lac de Sevan au nord de l'Arménie, ainsi que même la capitale de l'Arménie qui est Erevan. C'est cela qu'ont d'ailleurs dénoncé donc une cinquantaine d'élus, hein, co-signataires d'une tribune parue vendredi dernier dans Le Monde. Et avant de vous en livrer le contenu,
Vous n'allez pas tout nous lire.
Non.
Non, non, parce qu'il faut que ça réagisse autour de la table.
Mais bien entendu. Oui. Mais il faut quand même qu'il convient de saluer la diversité des signataires.
Oui, tant à droite qu'à gauche.
Bruno Retailleau des Républicains, Clémentine Autain des Insoumis, en passant par Yannick Jadot des Écologistes et
Ces gens-là ensemble.
Et Olivier Faure du Parti Socialiste. Une entente historique pour un sujet très concernant, car les élus français dénoncent la ratification de cet accord par l'Union européenne pour deux raisons. Rapidement, troquer l'État autoritaire russe pour pactiser avec l'État autoritaire de l'Azerbaïdjan, c'est financer donc l'armement et les exactions qui ont eu lieu à l'intérieur et en dehors, hein, de ce pays. Mais en plus de ça, doubler notre approvisionnement en gaz au niveau européen est en totale contradiction avec tous les engagements pris en termes de transition écologique.
Ah là, ça fait partie des gimmicks de cette émission. On va faire réagir autour de vous, puis vous rajouterez quelque chose. Mais on a évoqué récemment la visite de Mohamed Ben Salman. C'est la fameuse question, faut-il pactiser, pardon, entre guillemets, avec le diable, à vous, Bernard Cohen-Haddad.
Oui, c'est le problème entre la réelle économie et la diplomatie des droits de l'homme. Et je crois que Allah, son papier est merveilleux, bravo, et surtout qu'il me touche, parce que moi, je suis très proche du peuple arménien. Je pense à ces étudiants qui sont morts il y a quelques mois de l'université d'Erevan, qui sont tombés pour défendre leur pays, leurs valeurs. C'est important, ceci étant parfois nos pays européens semblent mélanger les genres et mélanger les valeurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin de paroles fortes et de coups de gueule comme cela. Ouais. Bravo.
Et en plus, Azerbaïdjan, ancien pays de l'URSS, donc historiquement partenaire de la Russie. Isabelle Marchandier.
Moi, je rejoins. Hein. Là, soudainement, le droit de l'hommisme est sacrifié sur l'autel des intérêts économiques et de notre souveraineté. Enfin, on essaie d'avoir une souveraineté énergétique. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir cette union sacrée, du coup, qui est assez étonnante entre les députés de la NUPES se taisent pour dénoncer quand même, ne pas dénoncer le régime liberticide en Afghanistan par rapport aux femmes afghanes. Et là, soudainement, il y a cette
alors
union.
Ne généralisons pas, certains sont plus intéressés et mobilisés pour des causes que d'autres. Hein. Ne généralisons. Alors, pour conclure votre excellent, donc j'ai bien entendu votre excellent tour de table à la Wikili.
La question fondamentale qui se pose aujourd'hui pour moi avec ce pacte, c'est si l'UE s'engage auprès des Azéris pour diversifier ses approvisionnements en gaz, qu'est-ce qu'il advient de l'amitié historique entre la France et l'Arménie? Si nous devenons dépendants énergétiquement de leurs bourreaux, est-ce qu'il faudra qu'on se taise lorsque les Arméniens seront massacrés sous peine que l'Allemagne ou d'autres pays dépendants du gaz se retrouve menacé de mourir de froid? Voilà aujourd'hui la question qui se pose, et j'espère que l'Union européenne ira chercher du gaz ailleurs et surtout relancera un vrai plan énergétique basé sur le nucléaire pour que enfin ce mot que je trouvais un peu bizarre de souveraineté européenne soit au moins vrai en termes d'énergie.
Alors, juste un mot, les Azerbaïdjanais, pour l'ensemble de la population de l'Azerbaïdjan, et Azéri, qui est un peuple qui est à l'origine de ce pays. C'est un peu d'ailleurs comme les Bosniens et les Bosniaques, pour dire toute
ça
la
Ça
me
rappelle les mauvais souvenirs. Ça
me rappelle votre fameux questionnaire où vous avez lamentablement échoué, je dois le dire, parce que vous étiez tellement brillant sur le reste. Merci en tout cas aux Vraies Voix d'avoir participé à cette émission. On se dépêche, les infos arrivent là. Hein, c'est ça, allez vite.